Chapitre 36. Avant d'être défendu par son avoué et son avocat, Roger devait commencer par se défendre lui-même et comparaître seul devant les juges chargés de l'interroger. Aussi, ce ne fut pas sans émotion et sans trouble qu'il se rendit au palais de justice. Il se sentait envahi par des sentiments confus de gêne, de répulsion et d'humiliation qui l'effrayaient. Il eût fallu être maître de soi, capable d'écouter avec calme, de réfléchir, de peser ses réponses, et précisément, il n'avait jamais été si nerveux, si violemment agité, si mal disposé à la patience, à la modération, à la raison. Bien qu'il eût peu pratiqué les livres, il y en avait un qu'il avait lu, relu, étudié, et qui lui avait appris à peu près tout ce qu'il savait. C'étaient les mémoires de son grand-père, le diplomate, le duc François de Naurouze. Né en 1760, mort en 1831, le duc François avait traversé la grande époque qui commence à Louis XVI, passe par la Révolution, l'émigration, l'Empire, la Restauration, pour aboutir à la Révolution de Juillet, et dans les mémoires qu'il avait écrits pendant les 10 dernières années de sa vie, en profitant des loisirs que lui laissait une grande ambassade, il avait raconté les événements qu'il avait vus et dans lesquels il avait joué un rôle souvent très important. Mais ses mémoires n'étaient pas un simple récit anecdotique et personnel. Tout en racontant les fêtes dont il avait été témoin ou auxquelles il avait été mêlé, tout en peignant les personnages qu'il avait connus, le duc François de Naurouze avait fait œuvre d'historien et de théoricien politique, un peu à la façon de Joseph de Maistre, en disant comme celui-ci qu'il faut sans cesse prêcher au peuple les bienfaits de l'autorité et au roi les bienfaits de la liberté. Pour lui, il n'y avait qu'un gouvernement possible, la monarchie absolue, le roi régnant, la noblesse gouvernant. Si la Révolution avait pu s'établir en France, cela tenait à deux causes principales. Premièrement, le gouvernement, c'est-à-dire les ministères, confiés par Louis XIV à des gens de rien, avaient ruiné et déshonoré le principe d'autorité. Deuxièmement, les empiétements et les usurpations des parlements. Sur ce dernier point, il avait été dans sa haine pour la magistrature, au moins aussi loin que Saint-Simon et même plus loin. Son livre était plein d'accusations, de moqueries, de railleries, d'insultes contre ces gens de rien, plein d'audace, d'ignorance, de suffisance, de morgue, qu'il poursuivait implacablement, qu'il fustigeait à tout propos et hors de propos, en grand seigneur qui a trouvé l'infaillibilité dans la contemplation de ses titres, et tout cela avec un style passionné, endiablé, fait de verve, de hardiesse, de noblesse, de familiarité, de trivialité, qui n'avait souci que de l'effet à produire et ne reculait devant rien, en homme à qui tout est permis. Ainsi écrit, ce livre plein de portraits vivants, d'anecdotes curieuses, de réflexions profondes mêlées à des raisonnements quelquefois faux mais toujours émus, ce livre était d'une lecture entraînante. Cinq fois, Roger l'avait lu d'un bout à l'autre et, à chaque instant, dans une heure d'ennui et de désœuvrement, il l'avait ouvert au hasard avec un intérêt toujours aussi vif, intérêt dû au mérite du récit, mais aussi, il faut le dire, mais surtout à la qualité de celui qui l'avait écrit, son grand-père, l'illustration et la gloire de la famille. Dans ces conditions, il était donc tout naturel que le jeune duc de Naurouze eût accepté les sentiments et les opinions de son illustre aïeul et qu'il pensât comme celui-ci à l'égard de ses Robins qu'il n'avait guère eu l'occasion de voir et de connaître dans le monde où il avait vécu. C'était devant quelques-uns de ces Robins qu'il allait comparaître en accusé, lui, le descendant et l'héritier du duc François. Avant que Nougaret lui eût parlé du procès intenté par le duc de Condrieu, il se fut présenté fièrement devant ses juges, n'ayant d'autres préoccupations que celles de sa défense. Mais maintenant, la situation n'était plus la même. C'étaient des gens qui, bien certainement, connaissaient ce procès, qui allaient l'interroger et chercher ce qu'il pouvait y avoir en lui, tout Naurouze qu'il fût, de ce sang de paysan. Cela faisait battre son cœur à grands coups et monter la rougeur de la honte à son visage. Lorsqu'il entra dans la salle des pas perdus, pleine de gens affairés, il lui sembla que les yeux de quelques avocats flâneurs s'attachaient sur lui avec curiosité. Il est vrai qu'avec son pardessus élégant de couleur claire, ses gants frais, sa canne à pommes ciselée, ses fines bottines, surtout avec sa désinvolture aisée et légère, il n'avait guère la tournure d'un pauvre diable de plaideur. En se faisant renseigner deux ou trois fois, il parvint à la chambre où il était cité. Comme il était en avance, il dut attendre. Enfin, on vint le prévenir qu'il devait paraître devant ses juges. Malgré l'émotion qui l'étreignait, il fit son entrée la tête haute, le regard assuré, sans forfanterie, mais aussi sans trouble apparent. La salle était vide, ce qui le rassura. Il ne vit que trois juges, un substitut et un autre personnage à l'air occupé, empressé, avec quelque chose de poli et d'affable qui ne sentait point le magistrat tel qu'il se l'imaginait. Un greffier sans doute. À son entrée, ces cinq personnes l'avaient enveloppé de leur regard curieux qu'il avait assez bien supporté. Puis les deux juges avaient abaissé leur tête, l'un sur un numéro de la Gazette des tribunaux, l'autre sur ses ongles qu'il s'était mis à nettoyer avec le bec d'une plume. Le greffier avait rangé ses papiers. Seul, le substitut et le président avaient continué à le regarder, le président en plein visage, le substitut au pied comme s'il admirait sa chaussure et se disposait à lui demander l'adresse de son bottier. « Votre nom, votre âge, votre demeure ?» demanda le président. « François Roger de Charluze, duc de Naurouze. » Il appuya légèrement sur le titre. « J'ai 21 ans et 3 mois. Je demeure à Paris, rue Aubert. » « Vous avez lu les pièces qui vous ont été signifiées ?»« Oui, monsieur. » « Alors vous connaissez les faits qui vous sont reprochés. Les contestez-vous ?»« Avant tout, je dois protester. Permettez. » Mais Roger ne se laissa pas couper la parole. Il leva la tête et donna à sa voix plus de force et de fermeté. « Je dois protester contre la façon dont on s'est procuré les chiffres des dettes contenues dans cette requête. » « Sont-ils ou ne sont-ils pas exacts ?» interrompit le président. Sans répondre, Roger continua. « On s'est présenté chez mes fournisseurs et, en mon nom, comme si l'on en avait reçu de moi la mission, on a demandé à chacun d'eux le relevé de ma facture. Alors, ces factures ont un certain caractère d'exactitude. Vous le reconnaissez implicitement. Je ne reconnais rien, je proteste. Nous ne sommes pas ici pour recevoir vos protestations. Nous devons vous interroger sur les faits relatés dans cette requête et vous devez, vous, nous répondre ou ne pas nous répondre selon que vous le jugez bon à votre intérêt. Alors, je n'ai qu'à attendre vos questions. Le président regarda ses deux juges et le substitut de l'air d'un homme qui se dit « Voilà un jeune coq qui lève bien haut la tête. » Ce fut au moins ce que Roger crut comprendre. Mais cela ne la lui fit pas baisser, au contraire. « Est-il vrai, demanda le président, que le jour de votre majorité, vous avez dépensé une somme de 977 547 francs provenant du reliquat de votre compte de tutelle ?»« J'ai été entraîné. » « Par la passion du jeu ?»« Non, par les circonstances. » « Comment, ayant perdu 800 000 francs, avez-vous consenti des hypothèques pour 1150 000 francs ?»« J'ai eu besoin de cette somme. » « Ces 350 000 francs excédant les 800 000 ne sont-ils pas le prix usuraire du prêt qui vous était fait ?» Roger ne répondit pas, car il ne pouvait le faire qu'en accusant Carban, et le mot « usuraire » employé par le président l'avait mis sur ses gardes. Ce n'était pas à lui de dénoncer Carban, si cher que celui-ci se fût fait payer. « Vous ne répondez pas ?» dit le président. « J'ai répondu. J'ai eu besoin de cette somme. » « Maintenant, passons aux mémoires si vous le voulez bien. » Mais sur ce point aussi, j'ai déjà répondu. Entrer dans des explications serait reconnaître la légitimité des moyens qu'on a employés pour se procurer ces mémoires, ce que je ne ferai pas. Vous remarquerez qu'en somme, cela vous dispense de répondre. Peut-être cela est-il contraire à mes intérêts, mais avant de prendre garde à mes intérêts, je prends souci de ma dignité. De nouveau, le président regarda les juges et le substitut en souriant. « Dans ces conditions, dit-il, je pense qu'il est inutile de pousser plus loin votre interrogatoire. Nous allons le clore. On vous en donnera lecture et vous aurez à le signer. » Puis, accentuant son sourire, « Il est entendu que si vous jugez à propos d'y ajouter quelque chose, toute liberté vous est accordée. »